Léa Salamé, votre invité ce matin, est historien spécialiste de l'Algérie et président du Musée national de l'histoire de l'immigration.
Et bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Comment qualifier ce qui se passe depuis 5-6 jours en Algérie? Est-ce que c'est un véritable mouvement de fond qui peut changer la donne politique ou c'est une poussée de fièvre conjoncturelle et tout rentrera dans l'ordre dans quelques jours?
C'est un tournant quand même très important parce qu'il y a eu, d'après les chiffres avancés par la presse algérienne, près de 800 000 personnes qui sont descendues dans la rue dans près d'une trentaine de villes d'Algérie. C'est quand même considérable et ça a surpris bon nombre d'observateurs. Bien sûr, le pouvoir algérien a été surpris, mais aussi l'opposition algérienne qui continuait les tractations pour savoir si elle allait ou non se présenter à cette élection présidentielle du 18 avril. Et donc, la présence dans la rue très massivement d'une grande partie de la jeunesse algérienne a été une véritable surprise.
Pourquoi se réveille aujourd'hui? Alors que l'Algérie ne s'est pas soulevée pendant les printemps arabes, alors que les Algériens n'ont pas bougé en 2014, quand Bouteflika, déjà malade, déjà mutique et invisible, se présentait pour un quatrième mandat, pourquoi maintenant il bouge?
Alors d'abord, pourquoi avant? Parce qu'il y a eu, avec la question des printemps arabes, le souvenir mémorable, pourrait-on dire, de ce qui s'est passé dans la guerre des années 90, la décennie sanglante. Il y a eu près de plus de 100 000 morts en Algérie. Donc les Algériens hésitent, bien évidemment, à se lancer encore et toujours dans des processus d'affrontement. Et puis aussi, il y a d'autres aspects, c'est que Abdelaziz Bouteflika, pendant très longtemps, a représenté aussi la continuité par rapport à la guerre précédente, c'est-à-dire la guerre d'indépendance. Donc il bénéficiait de cette notoriété, de ce prestige, on l'oublie trop souvent en France, et aussi parce qu'il avait été le candidat de la paix civile au début des années 2000, il y a très longtemps, maintenant il y a une vingtaine d'années. Donc pour ces raisons-là, bien sûr, la société algérienne était encore dubitative, s'interrogeait, même si le quatrième mandat était quand même passé très juste, très juste. Franchement.
Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Benjamin Stora? Le double argument que vous avancez là, c'est-à-dire à la fois l'argument islamiste, attention, vous voulez de nouveau le sang et les maisons brûlées, et de l'autre côté, l'argument nationaliste, avec le prestige de Bouteflika sur la guerre d'indépendance, qu'est-ce qui fait que ces deux arguments tombent un petit peu aujourd'hui?
Bien parce que le temps passe, tout simplement, et que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont connu que Bouteflika. Ils n'ont même jamais entendu le son de sa voix. Et donc, à partir de là, il y a cette volonté de changement.
Oui, parce qu'on rappelle que depuis 2003, depuis son accident cérébral, oui. Il n'a pas parlé à son peuple.
Non, il ne parle pas. C'est-à-dire qu'on n'entend pas le son de sa voix. Et d'autre part, on présente son image, sa photographie, lorsque des meetings sont organisés pour la préparation, par exemple, des élections présidentielles. Et ceux qui sont emmenés en autocar pour, disons, dans ces meetings, ne peuvent se contenter que de ce poster, en fait, qui est présenté. Ce qui est quand même, pour les Algériens, très mal vécu. Très, très mal vécu, parce que la société, le peuple algérien, ce sont des gens très politisés, des gens très engagés, des gens très cultivés, très à l'affût des bruits du monde. Ils savent très bien ce qui se passe dans les autres pays du Maghreb, très bien ce qui se passe en France, dans le bassin méditerranéen. Donc leur présenter encore un homme très affaibli physiquement, même s'ils le respectent. Parce que la question, c'est pas contre Bouteflika, c'est contre le cinquième mandat. Hein. C'est le problème du respect et du mépris. Là, ça passe de moins en moins.
Si on compare avec les révoltes précédentes contre le pouvoir algérien, notamment on pense en 1988 qui avait été réprimé dans le sang, quelle différence voyez-vous, notamment dans la réaction de l'armée et de la police?
Il y a une différence très importante, puisqu'en 88, l'armée effectivement avait tiré sur les manifestants. On avait compté plusieurs centaines de morts en Algérie. C'était d'ailleurs ensuite l'effondrement du système, du parti unique, etc. Aujourd'hui, l'armée n'a pas tiré, la police n'a pas tiré. L'armée, par parenthèse, en Algérie, est occupée à d'autres choses. En particulier, elle est largement stationnée aux frontières. Mali, Niger, Libye. Ça, c'est ça, la tâche principale de l'armée algérienne. Je ferme cette parenthèse. Mais il y a aussi, disons, le fait que l'Algérie a changé. On n'est plus dans la même situation que dans les années 80. C'est-à-dire que l'utilisation des gaz lacrymogènes et des pompes à eau, dans le fond, c'est se mettre au diapason de ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui pour réprimer des manifestations. C'est plus comme avant. Il n'y a pas cette façon d'agir, disons, automatique, très brutale et violente. Il y a, disons, d'autres façons plus sauves d'arrestation, etc.
Est-ce que l'armée a un candidat de rechange?
À ma connaissance, pour l'instant, non. Il y a un général qui se présente, le général Redeli qui se présente, qui a quelques appuis d'ailleurs importants à l'intérieur de l'appareil militaire, mais le candidat de rechange de ceux qui entourent Abdelaziz Bouteflika n'est pas encore désigné à ma connaissance, et ce qui a d'ailleurs conduit à sa présentation pour le cinquième mandat, c'est l'absence d'un consensus politique, et donc le maintien d'un statu quo en l'absence d'un leader capable, disons, de réunifier l'ensemble des fractions du régime.
Qui est cet homme qu'on découvre depuis quelques jours, qui s'appelle Rachid Nekaz, qui est enfermé dans une résidence surveillée depuis samedi, dont on dit qu'il est franco-algérien, dont on dit qu'il avait financé, c'était l'homme qui avait payé pour financer les amendes des femmes voilées en France, qui soutient Tariq Ramadan. Qui est cet homme sulfureux dont on dit qu'il se présenterait, qu'il serait un candidat?
Vous avez employé le terme qu'il faut, un personnage sulfureux. C'est-à-dire que les Algériens avaient découvert via les réseaux sociaux, très important les réseaux sociaux aussi, pour expliquer la simultanéité, la puissance, la rapidité sur l'ensemble du territoire algérien des fameuses manifestations de vendredi. Lui, Rachid Nekas, il a été connu comme ça, dans la mesure où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'apparition à la télévision algérienne de personnages un petit peu excentriques, dirons-nous. Ils se sont un petit peu enflammés pendant tout un temps sur Rachid Nekas, mais honnêtement, il ne bénéficie pas d'aucun appui dans les partis politiques existants, dans l'appareil d'État, dans l'armée, dans les syndicats. Enfin, j'ai pas ici multiplié la liste. Donc, c'est plutôt une candidature qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de médiatique des réseaux sociaux.
Médiatique des réseaux sociaux. Tant que l'Algérie vide sa rente pétrolière et tant que le prix du baril ne baisse pas trop, est-ce qu'au fond, le régime est assuré de rester ?
Vous savez, ça c'est compliqué parce que à force, disons, du temps qui passe, tout simplement, et le fait que les caisses de l'État sont de plus en plus vides, parce que disons que l'Algérie ne produit pas fondamentalement, elle vit sur les hydrocarbures, on le sait tous, et jusqu'à présent, notamment en 2011, au moment de ce qu'on a appelé les printemps arabes entre guillemets, eh bien, il y a eu redistribution de la rente pétrolière pour acheter la paix sociale. Or aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, et donc il y a une grande inconnue sur le plan social qui se dessine. Avant les grandes manifestations de vendredi, il y a eu déjà des grèves et des manifestations sociales qu'on ne connaît pas, mais qui ont été très importantes en Algérie.
Benjamin Stora, pourquoi les chancelleries européennes, toujours très promptes à réagir, par exemple avec le Venezuela, se testent-elles depuis vendredi sur l'Algérie? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce malaise?
Parce que le président de la République est confronté à une sorte d'équation impossible entre, d'une part, être dans un mouvement démocratique de soutien à la jeunesse algérienne, qui serait peut-être sa tentation naturelle, mais en même temps, il y a le problème non pas de la question simplement migratoire, qui est souvent invoquée comme un épouvantail, mais surtout la question du terrorisme et le problème, ce que je mentionnais tout à l'heure, la question de la guerre au Mali dans laquelle la France est engagée. Et donc ça, c'est très important.
Et donc une déstabilisation de l'Algérie, ça voudrait dire quoi? Pour le Mali, pour la Libye à côté,
pour le Niger. L'Algérie est la plus grande frontière saharienne avec, l'Afrique subsaharienne et la plus grande frontière méditerranéenne avec l'Europe. 1400 km de frontière, c'est gigantesque. C'est une espèce de pays-continent, en fait, fondamentalement. Bien, je ne m'attarde pas là-dessus, nous n'avons pas le temps, mais ça veut dire que c'est une armée, entre guillemets, stationnée sur ces deux frontières, à la fois la frontière saharienne et la frontière méditerranéenne. Et donc, une déstabilisation de l'Algérie ouvrirait la voie à une sorte d'inconnu politique, ce qui, par conséquent, se traduit par des hésitations, des silence et des observations très précises. Je ne crois pas qu'il y ait de panique, le dit très souvent.
Voilà, on a lu le cauchemar absolu d'Emmanuel Macron, ce serait la déstabilisation de l'Algérie aujourd'hui, à 3 mois des européennes, avec le spectre d'une vague migratoire des jeunes Algériens débarquant en France. C'est ça qu'on peut lire. Oui. Ça, est-ce que c'est aussi du fake news, peut-être?
Il y a un peu de fake news là-dedans, qui est repris par Spoutnik, absolument. La question que vous avez soulevée à l'instant est beaucoup plus importante, c'est l'Algérie et les élections européennes. C'est-à-dire le fait qu'on ait une déstabilisation possible, disons, de ce grand pays, eh bien, les élections européennes s'en seraient immédiatement affectées. Il faudrait maintenant que la France, avec l'Europe, ait une vraie politique méditerranéenne, notamment entre les deux rives, faire en sorte que l'ensemble des pays du Maghreb s'unifient aussi, c'est fondamental, ça je crois profondément à cela, et qu'on ait un regard qui soit plus politique de l'ensemble des pays d'Europe sur l'ensemble du bassin méditerranéen.
Benjamin Stora a été notre invité, merci de nous avoir éclairé ce matin, belle journée à vous.